Hauptstadt, Beira. Donc ça commence de façon un peu tragique. C'est la suite de la paracha dernière. La mesure où Rabbeinu s'est révolté d'une certaine manière contre Hachem. Il lui a reproché de l'avoir envoyé chez Paro. Et c'est que l'intervention de Moshe Rabbeinu s'est soldée par une aggravation de la société, de la situation de la société, enfin de la, du clan d'Israël, la société. Ils ont, entre autres, fabriqué des briques. Les briques, ça nécessite de la paille. Et on leur livrait la paille auparavant. Et là, maintenant, ils sont obligés d'aller la chercher eux-mêmes. Ce qui rend la situation intenable. Ils n'arrivent plus à assurer le quota de briques qui n'a pas changé. Donc, en particulier, ce qu'il va y avoir, c'est, on verra peut-être encore une fois, mais il y avait une organisation, c'est-à-dire il y avait les gens qui travaillent, et au-dessus d'eux, il y avait des responsables qui faisaient partie des Bnei Israël, et au-dessus des responsables des Bnei Israël, il y avait des capots égyptiens. Et quand les Bnei Israël ne fournissaient pas la quantité de briques imposée, alors on se tournait vers les responsables juifs. Et eux, ils ont eu le courage, ils ont compris qu'on ne pouvait pas demander plus aux gens, donc ils ont défendu la position et c'est eux qui ont pris les coups. Et ces gens-là sont ceux qui, par la suite, ont été nommés responsables par Moshe Rabbeinu. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ce sont eux qui, ayant montré de l'empathie, de la compréhension et de l'amour pour leurs frères, en fait, et qui ont pris sur eux de se faire battre, etc., pour ne pas, pour protéger les autres juifs, en fait. On a considéré que leur façon de se sentir responsable les qualifiait pour devenir membres du Sanhédrin ultérieur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une construction qui se fait par prise de responsabilité. Les gens s'avèrent responsables de leurs frères et donc ils sont capables par la suite d'être nommés justement à des positions où ils peuvent effectivement être vraiment responsables. Alors ça commence de façon tragique parce que Hachem avait dit à la dernière chose qu'il a dite à Moshe Rabbeinu, « Ata tiré, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro. » Et les Chachamim ont entendu dans le « Ata tiré », ça veut dire « maintenant tu vas voir »,« Ata » c'est avec un « Aïn »,« maintenant tu vas voir », et les Chachamim ont entendu que ça voulait dire « maintenant tu vas voir, mais tu ne verras pas ce que je ferai pour le clan Israël » au moment de la conquête d'Eretz Israël, donc tu n'entreras pas en Eretz Israël. Donc Moshe Rabbeinu est condamné ici, il était déjà un peu condamné quand il a refusé d'aller sortir les Bnei Israël, parce qu'il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son frère Aaron. Et là maintenant il est quasiment encore une fois condamné, ou en tout cas cette fois-ci clairement condamné, à ne pas entrer en Eretz Israël. Ça va être renouvelé. Moshe Rabbeinu va penser que Hachem a pardonné, mais finalement, à lui, on ne lui aura pas pardonné. Il n'entrera pas, comme tout le monde sait. Il n'entrera pas, pour d'autres raisons aussi, en Eretz Israël avec les Bnei Israël. Donc, c'est absolument tragique. Ça commence très mal. Et Hachem le lui fait, pas seulement qu'il lui dit « à t'attirer », mais la paracha commence. D'abord, elle commence par « Idaber Elohim El Moshe ». Alors, c'est curieux, c'est « Idaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav ». C'est une drôle de chose. Il y a un dibour et ensuite une amira. Pourquoi en fait, on aurait pu faire l'économie du « Vaidaber » où on aurait dû directement dire Vaidaber Elohim El Moshe Ani Hashem, ou bien Vayomer Elav, Vayomer Hashem El Moshe Ani Hashem. Mais Vaidaber Vayomer, qu'est-ce que ça veut dire ici? Rashi dit sur le Vayomer, Rashi dit Neman Neshalem Sachar La Maalchim Lefanai. C'est-à-dire, je suis fiable, je paierai le salaire à ceux qui marchent devant moi. Alors, peut-être on peut dire que le pshat, c'est que quand on utilise le tétragramme, pas comme Hachem dit « Ani Hachem », il lui parle, c'est Elohim qui parle et il dit « Ani Hachem ». C'est-à-dire, quand Hachem se montre avec son, enfin, il se dévoile avec son nom tétragramme, donc c'est le dévoilement maximum. Et par contre, le Onesh, la sanction, c'est la Milat Hadin, c'est Elohim. Le Maharal, il explique que le nom divin est Eke, en fait, celui qu'il avait, ce nom divin qu'Hachem avait communiqué à Moshe Rabbeinu et qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est celui-là que tu vas utiliser pour me présenter. Il vient dire ici, dit le Maharal, la façon dont c'est comme si Eke dit la façon dont je vais me conduire à l'égard du clan d'Israël, c'est Ani Hachem. Ça veut dire que chaque fois que l'homme va agir, alors il est dans. Il entre dans ce rapport avec Hachem, qui est donc, si c'est Ani Hachem, ça veut dire je suis proche de vous. Mais en même temps, il y a toujours le problème, il y a un dévoilement aussi avec une possibilité de Onesh, si on ne se conduit pas vraiment bien. Donc il y a à la fois du Elohim aussi. Si vous voulez, d'après le Maharal, c'est comme si on avait ici trois noms divins. Il y a Eke Asher Eke, Hachem et Elohim. Et donc, Eke Asher Eke dit, je vais me dévoiler au Bnei Israël, parfois sous forme d'Elohim, d'autres fois sous forme d'Hachem. Et ça commence... avec Abraham, avec son rapport avec Moshe Rabbeinu, Bichlal. Vaidaber Elohim El Moshe, c'est en quelque sorte la suite de ce qui a été dit Atatire, c'est-à-dire c'est un Onesh. Voilà. Donc Hachem lui parle durement, Elohim lui parle durement, si vous voulez. Vaidaber, Daber, c'est dur, par opposition, Vaïromer. Et puis ensuite, il lui dit, mais Ani Hachem. C'est-à-dire, moi, je suis fiable. Ça veut dire, chacun aura exactement le salaire positif ou négatif qui correspond à son action. C'est une annonce de la fameuse Hanaga de Sechar Ve'Onesh, la fameuse façon de gouverner le monde selon le principe de Sechar et de Onesh. Ça, c'est le, on peut dire, c'est la mida de Emmet d'Hachem. Hachem est vrai, il est fiable. Ok, donc il y a une espèce d'introduction, en quelque sorte, à cette paracha, qui est presque un principe général, presque de définition de la relation entre Hachem et le clan d'Israël, mais qui est dite à ce moment-là à Moshe Rabbeinu. Comme si... Avant de dire « je vais me conduire comme ça avec le clan d'Israël », Hachem dit à Moshe Rabbeinu « avec toi aussi, je vais me conduire comme ça, parce que toi, tu représentes le clan d'Israël. » Et alors, ce qu'il lui dit, c'est extrêmement dur, très très dur. Il lui dit « Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov vekel Shakai. » Avraham, Yitzhak et Yaakov, je me suis dévoilé avec un autre nom divin, Kel Shakai. Le Dieu Shakai, c'est un nom de Dieu. Et comme tous les noms de Dieu, ça fait référence à une hanaga, à une façon avec laquelle, selon laquelle Hachem se conduit à l'égard du clan d'Israël. C'est ça les noms divins. Ce n'est pas des noms comme ça, il a plusieurs noms selon qu'il utilise tel ou tel passeport. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de savoir que les noms divins représentent des anagotes différentes, des façons différentes de gouverner. Et Hachem dit ici à Moshe Rabbeinu, il dit « avec les avotes, je me conduisais selon le nom divin qu'est le Shakai. » Le Shakai, là, qui se dit avec, qui se dit Shin Daledyud, donc, avec le mot Dai dedans. Dai, ça veut dire ça suffit. Donc, il est décrit, vous le savez certainement, chez Amar le Olamo Dai. C'est-à-dire, il y a eu création du monde, et ce monde est, quand il a été créé, il s'est mis en extension, en quelque sorte. Il a eu tendance à s'étendre, mais l'extension, elle pouvait être infinie. Et il y a une anaga d'Hachem qui a dit, Dai, ça suffit. Voilà, ça veut dire, si vous voulez, on pourrait dire, c'est comme si Hachem avait dit, OK, le monde tel qu'il est, maintenant, il a en lui tout ce dont j'ai besoin pour que mon plan se réalise, à savoir qu'Hachem puisse, que les hommes me reconnaissent comme étant le Melech. Melech al-Kol Haaretz. Je sois reconnu comme Melech. M'accepte comme roi. Je suis évidemment le maître. Je suis Cholet sur tout. Je maîtrise tout. Je dirige tout. Je fais ce que je veux dans le monde. Il y a une chose que je ne peux pas obtenir, je ne peux pas obliger les gens à me reconnaître volontairement, puisque, et oui, je peux faire des choses qui amèneront les gens à me reconnaître, mais ça sera plus volontaire, parce que je peux faire en sorte qu'ils soient obligés de me reconnaître. Et c'est, du coup, ça perd ça. Donc, quelque part, je ne serai plus Meller, je serai alors, comme on l'a dit, Moshel. Un tyran. Je m'impose. Donc, c'est pas la volonté d'Hachem. Le projet d'Hachem, c'est d'être reconnu comme Melech. Et donc, Hachem dit, dans le monde tel que je l'ai créé, je dis, ça suffit, il y a assez de richesse, si on peut parler, dans ce monde, qu'il y a suffisamment de possibilités, de situations pour que les hommes puissent me reconnaître. « Mais la caractéristique de ce Kev Shakai, c'est qu'Hachem fait des promesses. Mais que on n'en voit pas la réalisation. Et par conséquent, ça met ceux qui croient aux promesses dans la situation d'avoir grande patience et de construire une confiance. On vous fait des promesses et ça ne se réalise pas. Alors, au bout d'un moment, on peut dire, ça suffit, j'y crois plus. Non, la force des Avot, c'est que bien que n'ayant pas vu la réalisation des promesses, ils sont fidèles, ils font confiance. Donc c'est très important, faire confiance à Hachem dans une situation où on ne voit pas la réalisation. Et donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, les Avot ne m'ont connu que sous ce nom-là. Shmi Hachem, mon nom Hachem, lo nodati lahem. Je ne me suis pas fait connaître à eux sous cette forme-là. Alors tout le monde pose la question, évidemment. Ce n'est pas vrai, hein, c'est marqué plusieurs fois dans le Sefer Bereshit. Le nom divin Hachem est marqué des tas de fois. Mais ce qu'ils n'ont pas, Hachem, si vous voulez, il y a d'une certaine manière la relation avec Hachem, elle n'était pas vraiment là. Ils m'ont pas expérimenté comme ça. Vegama kimoti et briti tam. J'ai fait même avec eux une alliance. La tête la m et eretz knan, et eretz megureim, et eretz megureim. La terre de Knan, la terre où ils habitaient, à Sher Garouba, où ils ont vraiment habité. Vegamani shamati et nakat bene Israël, Hashem Israël ma abidi motam. J'ai entendu aussi les plaintes des bene Israël que les Égyptiens font travailler, enfin les réduisent en esclavage. Vaezkor et briti, et cette alliance, je m'en suis souvenu. Je m'en souviens donc. Alors, c'est pour cette raison que maintenant je t'envoie, et mort l'Ivné Israël, va dire au Bné Israël, Ani Hachem, que je suis Hachem, Vehotseti etrem mitachat, Sivlot Mitzraim, Vitsalti etrem avodatam, Vegalti etrem bizroan entuya, Vishvatim gdolim, Velakarti etrem li leam, Vehaiti lachem leelokim, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. Alors, le début, où השם dit, voilà, au Avot, je me suis présenté de cette manière-là et eux, ils ont eu confiance. Et là, tout de suite, Chazal entend et Rashi le rapporte. Et Rashi dit, Vayomer elav ani Hashem, neman le shalem, sachar tov la misalkim le fanai, ça c'est ce qu'on vient de voir. Je suis fiable, je vais payer un salaire à ceux qui marchent devant moi. Et puis maintenant, un petit retour sur ce que toi tu m'as dit, Moshe. Lo lechinam shlachticha. Je ne t'ai pas envoyé chez Paro gratuitement pour. Non, mais c'était ça le reproche de Moshe. Moshe dit, tu m'as envoyé et ça a aggravé la situation. Donc, pourquoi tu m'as envoyé? Alors Hachem lui dit, je ne t'ai pas du tout envoyé pour. En vain. Et je ne t'ai pas envoyé pour que ça s'aggrave. Mais, kiim le kayem devarai, pour accomplir mes paroles, ou devari, j'ai dit barti la avot en rishonim. Les paroles que j'ai dites au premier patriarche. Ça veut dire, en fait, ça fait que ça continue les reproches. C'est-à-dire, je t'ai envoyé pour accomplir ce que j'ai promis. Mais ensuite, il va lui dire, malheureusement, Aval al-Dahabdin, c'est malheureux qu'il n'y ait plus aujourd'hui des gens comme les patriarches. Les patriarches ne sont plus là. Eux n'ont jamais protesté, ils n'ont jamais vu la réalisation. Et toi, que bien que je t'ai annoncé qu'on était dans la phase de réalisation des promesses, tu n'as pas eu la patience, tu ne m'as pas fait confiance. Moshe dit à la, pardon, Hachem dit à la fois à Moshe, toi tu as un niveau de prophétie plus élevé que celui des Avot, c'est ce que la Torah va dire, l'Okam Israël n'a vu que Moshe. Il est le plus grand des prophètes, il est plus grand qu'Abraham, Israël et Jacob en prophétie. Et c'est ça que dit le verset, au Avot, je ne me suis pas donné à connaître sous le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'ils ont connu le nom, mais ils ne l'ont pas expérimenté sous la forme prophétique, par exemple. Je me suis montré au Avot, j'ai fait une alliance avec eux. Mais l'alliance, ils n'en ont pas vu la réalisation. Et maintenant, je t'annonce que je suis dans la réalisation, et toi, tu n'as pas de patience. Tu me fais des reproches. Rashi dit sur le nom divin Kel Shakai. Rashi dit Iftartim Aftachot, j'aurais fait des promesses. Bukulam Amartilaem Ani Kel Shakai. J'aurais toujours dit que je suis Kel Shakai. Ushmi Hashem non Datilaem. Mon nom, Hachem, le tétragramme, je ne l'aurais pas fait connaître. Je ne me suis pas fait connaître à eux sous ce nom-là. Alors, Rashi fait remarquer, Lo Odati Enktivkan. Ce n'est pas, je ne l'aurais pas communiqué ce nom-là. Alors, Lo Nodati, c'est-à-dire Lo Nikarti Lahem, Bemidat Amitut. Je lis. C'est-à-dire, ils ne m'ont pas connu sous ma vérité, en fait, sous. C'est celle qui correspond à mon nom Hachem. C'est-à-dire, dans le Rashi dit ici que le nom Hachem, c'est le nom qui dit qui tient ses promesses. Bon, eux, ils m'ont connu sous un nom qui ne tient pas ses promesses, quoi. C'est un Dieu prometteur, qui promet, mais qui ne tient pas ses promesses. J'ai fait une alliance. Je leur ai promis Eretz Kenan, etc. J'aurais dit, la nappe de terre, elle sera à toi, ta descendance, etc. Mais maintenant, ce serment que j'ai fait à Abraham, avec mon nom de Kel Shakai, je l'ai fait aussi à Yaakov, à Ni Kel Shakai Pré-Urvé, il lui a dit, multiplie-toi. Et arrête, sa chère, toujours, arrête, chez Nadar Tilahem, Lokiyamti. Je l'aurais promis, mais je ne l'ai pas accompli. Alors évidemment, je dois l'accomplir. C'est pour ça que j'ai décidé d'entendre la plainte des Bnei Israël qui souffrent là maintenant dans leur esclavage. J'avais annoncé dans l'alliance que j'ai faite avec Abraham, j'ai annoncé que le peuple descendant d'Abraham allait souffrir. J'ai annoncé que j'allais juger le peuple qui les réduit en esclavage. Et donc, maintenant, à la suite de ce serment que j'ai fait, je dois maintenant le réaliser. Et on est maintenant dans la phase de réalisation. On entre dans cette phase de réalisation. Donc, marche devant moi. Marche devant moi et je serai ton Dieu, ton patron, en quelque sorte, je te protégerai.
Raph, s'il vous plaît. Raph, s'il vous
plaît. Oui.
Théodile, qu'est-ce qui fait que Hachem s'est souvenu du peuple juif à ce moment-là? Parce que les plaintes, elles avaient lieu avant. Et
non,
pourquoi
non, et non. Les Rachamim disent que ils ne s'étaient pas plaints vers Hachem. Ils souffraient, mais ils s'étaient pas tournés vers Hachem. À un moment donné, ils se sont tournés vers Hachem. Et donc, Hachem a décidé d'écouter. C'est aussi que, quand Hachem a fait cette promesse que les Bnei Israël allaient être en esclavage et ils allaient souffrir, c'était à un temps limité puisqu'ensuite ils allaient sortir. Donc, le temps, c'était un temps de les fameuses 400 ou 430 ans. Alors, maintenant, on est arrivé à 210 et ils vont sortir. Alors, on explique toujours de plusieurs manières. Il y a un problème, là. Ça devait durer encore plus longtemps. Alors, on dit que la dureté qui n'était en fait pas permise, les Égyptiens avaient le droit de réduire les Bnei Israël en esclavage au sens de travailleurs, qui travaillent pour eux, effectivement. Mais ils n'avaient pas le droit de les torturer. Alors, toutes les tâches que les Égyptiens leur faisaient faire, c'était de la torture. Et donc, la dureté de l'esclavage a fait que 210, c'était comme 400. Donc, ça veut dire le terme était arrivé. Dans le projet divin, c'est le moment où ça doit se terminer. Alors, c'est un projet divin qui est 400, c'est déjà l'histoire, c'est beaucoup, c'est toujours ce fameux chiffre 4. qui représente tout le plan, mais donc ça veut dire c'est un truc presque infini. Et maintenant c'est réduit à Redou, c'est-à-dire là, ils ont souffert pendant 210, mais 210 c'est Redou. Redou, ça veut dire qu'ils ont souffert, ils ont été écrasés en quelque sorte, indûment. Sur cette partie-là, les Égyptiens vont payer. Ils payent pas parce que ils ont fait travailler les Bnei Israël. Normalement, c'était permis, ça. Parce que c'est ce qu'Hachem a dit. Ils vont être dans un pays, etc. Et donc, bon. Pourquoi c'était en Égypte? C'est aussi probablement à cause de la dispute entre Yehuda et Yosef, bien sûr. Et donc ça, il y avait une espèce d'équivalence. La dureté, la difficulté de cet esclavage était telle que 210 était égal à 400. Et 400, c'était le terme prévu. Ça, c'est donc la réponse à Odile. Maintenant, bien sûr, Hachem fait des reproches à Moshe Rabbeinu, mais en même temps, il explique, voilà la situation, voilà pourquoi moi, je t'envoie maintenant pour sortir les Bnei Israël d'Égypte. Je vais les faire sortir, parce que j'ai décidé que maintenant ils vont sortir. Maintenant, le Ramban écrit au début de son commentaire sur la Torah, le Sefer Shemot, pardon, pas au début, à la fin de son commentaire sur Shemot, le Ramban dit que tout le Sefer Shemot, c'est le Sefer de la Geoula, le Sefer de la libération. Mais il faut toujours bien avoir présent à l'esprit que la libération, elle suppose deux choses. Elle suppose qu'on fasse sortir, extraire les Bnei Israël de l'Égypte. Et ensuite, il faut expliquer que les Bnei Israël méritent de sortir. Hachem veut les faire sortir, donc il va falloir empêcher les extraire, c'est-à-dire les faire sortir, comme on va le voir par la suite, à la fois contre la volonté de l'Égypte et aussi contre la volonté de la majeure partie du peuple. 80% du peuple ne voudra pas sortir. Et puis ensuite, il faut savoir, est-ce qu'ils méritent de sortir? Alors, vous savez bien que au passage de la mer, donc après qu'ils soient sortis, et on ne parle que des gens qui sont sortis, les 20% qui ont bien voulu sortir, qui ont fait confiance à Hachem, de ces 20%-là, les Malachim disent, quand Hachem sauve les Bnei Israël, il les sort de la mer et il noie les Égyptiens, les Malachim disent, mais c'est une injustice flagrante. Alleluav de Avodazara, ve Alleluav de Avodazara. Ceux-ci, les Égyptiens, sont idolâtres, mais les Bnei Israël, ils sont idolâtres aussi. C'est-à-dire, les Malachim Acharet, les Malachim ne voient pas la différence entre les Bnei Israël et les Égyptiens. S'ils ne la voient pas, c'est qu'il n'y en a pas. Et Hachem donne une réponse qui... Bon, c'est une réponse, mais elle n'est pas complètement satisfaisante. C'est-à-dire que c'est une réponse, mais elle ne répond pas aux critères d'une bonne réponse. Parce que qu'est-ce que serait une bonne réponse? Vous ne voyez pas la différence? Voilà la différence, je vous la montre. Mais Hachem ne donne pas une réponse comme ça. Hachem dit aux anges, il leur dit, ils vont accepter la Torah. Il y a une règle générale dans le jugement. Une règle générale qu'on applique à Rosh Hashanah, par exemple. C'est que pour juger quelqu'un, on le juge sur ce qu'il est à l'instant présent. Et on ne tient pas compte du futur. Et nous sommes très heureux qu'Hachem ne tienne pas compte du futur. Parce que il nous juge sur les bonnes intentions qu'on a au moment de Rosh Hashanah, au moment du jugement. Mais Hachem sait très bien que, au moins sur une partie, pour certains d'entre nous, peut-être, enfin nous et peut-être d'autres aussi, on ne tiendra pas. On ne va pas vraiment tenir tout ce qu'on a, tout ce à quoi on s'est quasiment engagé à Kippour, à Rosh Hashanah, à Kippour. Donc si Hachem en tenait compte de ça, ben on s'en sortirait pas. Hachem dit qu'on est jugé par Asher Usham, tel qu'on est au moment du jugement. Donc si on a réussi dans l'heure durant laquelle on est jugé, on a fait tout un travail intérieur. Oui, je veux vraiment profondément, sans s'occuper de est-ce que je tiendrai la distance. Alors on passe. Donc dire, c'est vrai qu'aujourd'hui ils ne le méritent pas, mais ils vont faire demain quelque chose qui vaut la peine, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse qui satisfait les conditions d'une réponse à une question telle que celle posée par les Malachim. Donc il y a là une espèce de coup de force d'Hachem en faveur des Bnei Israël. Alors on peut diminuer un petit peu la difficulté en disant que Hachem voit qu'il y a en eux la capacité d'accepter la Torah. Déjà maintenant. C'est potentiel. Mais ça non plus, c'est pas terrible comme réponse. Parce qu'on sait que la Torah, ils l'ont acceptée sous la contrainte. Donc dire qu'il y a en eux quelque chose de suffisamment positif qui est que, à Pourim, des siècles plus tard, ils vont accepter la Torah sans contrainte. Pour nous, c'est un recette gigantesque. Mais c'est pas une vraie réponse. Donc, voilà, on part comme ça. Dans le Navi Malachi, il dit, c'est Hachem qui dit, et Esav Saneti. J'ai aimé Yaakov et j'ai haï Esav. Pourquoi, comment? On parle du début, on parle de. Au départ. Bon, il faut expliquer là-bas aussi qu'est-ce que ça veut dire, mais. Il y a quelque chose de, si vous voulez, une espèce de, c'est Beni Bechori, Israël. Israël, c'est mon premier-né. C'est-à-dire, voilà, je lui donne une préférence. La préférence qu'on donne à un premier-né, par exemple. Parce qu'il est premier-né, pour quelle raison un premier-né aurait-il des avantages? Il a fait quelque chose pour ça. Il a rien fait de spécial. Oui, c'est vrai qu'il est le premier à avoir ouvert les voies basses, etc. OK. Alors c'est ça, mais ce n'est pas présenté, c'est la définition du premier-né. Mais si l'avantage d'avoir ouvert les voies basses, c'était, ça valait vraiment quelque chose. Pourquoi ça vaut pas quand c'est une fille qui ouvre les premiers, qui passe en premier? Elle a aussi ouvert les voies basses. Donc vous n'aurez pas de raison de donner un privilège. Donc il y a quelque chose, il y a une certaine valeur. On ne sait pas très bien toute la notion de Bechora, par exemple, la Torah, elle accorde un grand cas au Bechor. Mais je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, aucun des grands personnages dans la Torah n'est un Bechor. Moshe n'est pas un Bechor. Abraham n'est pas un Bechor a priori. Yaakov n'est pas le Bechor. Yitzhak n'est pas le Bechor d'Abraham. C'est compliqué. David HaMelech n'est pas le Bechor. Yishlomo. Kitsour, je dis ces choses-là en passant, quoi. Je ne sais pas vraiment répondre à toutes ces questions. Mais on peut vivre quand même avec les questions. Ça va. Mais il faut savoir que c'est pas évident. Peut-être qu'il existe des réponses que je ne connais pas. Sûrement des réponses, mais je ne connais pas. Rashi cite Chazal, il dit sur il dit à Moshe Rabbeinu, Chaval al de'avdin, c'est très dommage qu'on n'ait pas les patriarches, qu'eux ont disparu. C'est une façon de dire, bah, ok. C'est comme si Moshe était en quelque sorte choisi par défaut. Il n'y a pas de patriarche, alors on te prendra toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est fou. Ouais. C'est quoi la force qu'il faut avoir? La force des avot, d'accord, de s'entendre promesse après promesse, génération après. Chez Abraham, chez Yitzhak, chez Yaakov, des promesses, des promesses, des promesses. Il y a de quoi faire grève, non? Au moins. Promets, et après, il n'y a rien qui vient. C'est-à-dire que quel chakai, c'est un nom divin qui va de pair avec une forme de Esther Panim. Promesse, mais pas de réalisation.
On peut proposer quelque chose.
Pardon?
Je dis si on peut proposer quelque chose.
Bien sûr, oui.
De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, au Avot, il a promis et il les a laissés attendre, alors inversement, Neisel aussi, ils sont comme une promesse qui va se réaliser plus tard. C'est comme check patouach, c'est donner la chance.
En quoi les Bnei Israël sont une promesse qui se réalisera plus tard?
Parce qu'ils ont reçu cet héritage des Avot qui avaient la patience de persévérer sans avoir de récompense.
Oui, mais alors nous, et nous alors?
Et nous, donc on a cet héritage qu'on pourra le réaliser plus tard. On a reçu une certaine éducation pendant d'Abraham, Yitzhak, à Yaakov, et après les Bnei Israël, les Shvatim, que on attend la réalisation d'une certaine promesse. Donc, Akadosh Baruch Hu peut nous faire cette confiance aussi. Que maintenant, on n'est pas à l'auteur, mais dans le futur, on le sera. Il y a quelque chose, il y a une certaine tradition.
Tu veux dire qu'on est en image d'Hachem, quoi.
Machu Kazé.
On a Hachem, et Hachem doit nous attendre.
En plus, ça, dans la vie quotidienne, on ne pourrait pas vivre s'il n'y a pas cette idée que plus tard, ça va se réaliser. Mais Akadosh Baruch Hu, Hinechotanu Kach, qu'on doit persévérer dans l'espoir.
Oui, on peut dire que. Si, le problème c'est Moshe Rabbeinu lui-même, il ne l'a pas fait. Moshe Rabbeinu, le problème c'est pourquoi Moshe il ne l'a pas fait? Pourquoi Moshe il ne fait pas ce que toi tu dis que nous on doit faire? Moshe Rabbeinu, il a dit, mais là, it's now or never, je veux dire, quoi. Fais rien pour Hachem, pour les hommes, pour les Bnei Israël. On attend.
Et Yumaï Madnefesh.
Oui, mais ouais, nous.
Il y a quand même un gvoul, non? Il y a une limite, ce qu'on peut attendre.
Ouais, il y a déjà beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un gvoul, non? Aujourd'hui, pour les Bnei Israël aussi.
Oui.
Je connais quelques personnes qui ont dit que la Shoah, c'était vraiment le gvoul ultime. Tu as raison que Afalpich et Ismaméa, néanmoins,
il y a les deux choses en même temps.
On attend et on a confiance. C'est vrai, on attend, on a confiance. Et c'est assez extraordinaire d'attendre. La vérité, c'est que on peut aussi dire qu'on a de bonnes raisons d'attendre. La preuve, enfin, parce qu'on est là. Parce qu'à vue humaine, on ne devrait pas être là.
Exact.
Donc, le fait que nous soyons là, il nous donne confiance. Comme tu dis, quelque chose va s'arranger.
Je suis un guide.
On dit du Chavetz du Chazon Ish. Quand quelqu'un disait, comme tu dis là maintenant, c'est un goût, ça veut dire ça va être bien, demain ça sera mieux. Rasoni, je disais qu'on n'a pas le droit de dire ça, il faut dire c'est si je suis un goût.
Si je suis un goût, si je suis un goût.
Ça va bien maintenant. C'est bien, seulement je le comprends, mais c'est déjà bien. C'est pas que ce sera bien aujourd'hui, c'est pas des questions le lendemain qui chantent.
Mais devant l'injustice, on ne peut pas dire. Si je suis un guide, on peut devant l'injustice.
Il faut comprendre que c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que c'est le Ratzon Hashem.
Mais en quoi c'est différent du déterminisme?
Oui, il y a un déterminisme qui est celui que les prophètes nous ont annoncé, qu'à la fin des temps, ça s'arrange. Ça, c'est une forme de déterminisme. Il y a une question, le Chassam Sofer, à la fin des Tshuvot sur Yoredea, il écrit sur le Yud Gimel Ikrim, je crois que j'en ai déjà parlé de ça. Rambam, il a 13 principes, les Mouna en quelque sorte. Et le Chassam Sofer, c'est une super autorité. Il dit, je ne comprends pas pourquoi on dit que la venue du Mashiach, c'est un fondement. Il dit, un fondement, c'est quoi? Et si tu enlèves cette chose-là, l'édifice s'effondre. C'est ça un fondement. Et si jamais les Bnei Israël se conduisent toujours mal et que le Mashiach ne vient pas, est-ce que ça va nous dispenser d'obéir à la Torah? La Torah ne nous a pas été donnée. Je vous donne la Torah, mais vous n'êtes obligé de la faire que si à la fin de l'histoire ça réussit. C'est pas marqué dans la Torah, Bichlal. Explicitement. Marqué, Triat HaMetim. C'est écrit dans la Torah, mais de façon très remède. C'est marqué, Az Yashir Moshe. Moshe va chanter. Comment il va chanter? Quand? À la fin des temps, il va chanter. Pas marqué, Az Char. Enfin, Moshe Char. Il a chanté. Yashir. Il y a quelques autres termes dans la Torah qui permettent de dire que Triat HaMetim et la Torah peut déduire Triat HaMetim de la Torah, au moins au niveau remez, au niveau allusif. Mais le Khatam Sofer dit, mais c'est pas un fondement. La Torah, elle s'effondre pas du tout si le Mashiach ne vient jamais. Ça me sait faire. Bon, il dit, il y a les kabbalistes, ils ont une réponse, mais je sais pas, j'y comprends rien, etc. Il n'a pas voulu dire, il était un élève. Non, les kabbalistes, ils donnent des réponses. Non, juste pour dire que c'est pas les Nevi'im nous ont dit, tu parles de déterminisme, oui, il y a un déterminisme de l'histoire. Hachem, ça veut dire Hachem a un plan, et ce plan il se déroule à chaque instant. Nous on voit pas, on a l'impression que voilà, il se trouve que c'est moi qui veux faire ceci ou cela. Mais ça correspond en tout cas au plan d'Hachem. Hachem fait coïncider la liberté humaine avec le plan divin. Ça, c'est le côté génial, incompréhensible, de faire coïncider le plan divin et le plan résultant de la liberté humaine. Chose d'absolument, enfin, on n'arrive pas on peut pas le faire, mais c'est comme ça. Et ça, c'est parce que c'est Hachem, c'est parce que c'est le plan d'Hachem, pas le plan de monsieur quelqu'un, c'est tout le monde, ou même de monsieur exceptionnel.
Mais c'est ici en bas que construit le plan divin.
Oui, alors ça, c'est assez énorme ce que tu dis là.
Oui, mais
là, les hommes.
C'est le Sfasemet à chaque paracha, il dit ça.
Oui, tu as raison. Et, il dit ça, et le problème, c'est. Enfin, pas le problème. Regardez comment ça se dit. Il y a une Torah qui est enterrée. Il y a une yeshiva chez le Mala. Il y a une yeshiva, le yeshiva, c'est Hachem. Donc, on enseigne la Torah dans le monde d'en haut. Quelle Torah on enseigne? La Gemara, elle dit que un des grands maîtres qui a rencontré un jour Eliyahu Hanavi, et il lui a demandé, dis-moi, qu'est-ce qu'Hachem il enseigne maintenant dans la Yeshiva le Mala? Qu'est-ce qu'il enseigne? De quoi on parle? Alors, à la Yeshiva en bas, il y avait une machloket entre deux Tanaïm, le maître de la Mishnah. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, en haut, on enseigne, Meir, mon fils, il dit comme ça, et Yehuda, mon fils, il dit comme ça. Tu dis, toi. La Torah qui est enseignée en haut, c'est la Torah d'en bas. Les Chachamim, ils font la Torah. C'est ce que les gens comprennent pas. Ils s'imaginent, c'est les rabbins. Oui, ce sont les rabbins. La Torah orale, qui est la Torah de la vie, elle est, bien sûr, elle est ancrée dans la Torah chez Birtav, que la Torah chez Birtav soit une source ou bien qu'elle soit une espèce de sédiment de la Torah orale. discuter ça, mais la Torah orale, elle se fait. Nous, aujourd'hui, nous étudions, nous fabriquons de la Torah. Alors, bon, nous, on est un peu petits pour fabriquer, mais il y a des gens plus forts, plus grands, qui fabriquent la Torah. Et comme la Torah, c'est le plan du monde, ils fabriquent le monde. Mais ça que les hommes fabriquent d'une certaine manière le monde, on en a quand même aujourd'hui quand même des traces sous la forme de le réchauffement du climat, c'est les hommes. Ça veut dire on est en train de ficher en l'air le climat. On est en train de construire le monde alors. On est en train de le détruire. Donc la capacité que nous avons de détruire le monde, elle montre bien le pouvoir des hommes. Bien, ce pouvoir-là, il n'est pas seulement là en polluant avec nos voitures ou avec nos usines, etc., ou avec nos mines, charbon, ce que vous voulez. La construction du monde, elle se fait aussi avec la Torah. Et principalement, il se fait avec la Torah. C'est ça le... Que tu dis, le Svatémet, il le dit. Ah oui, mais c'est une Gemara, c'est ça le Chazal. C'est ça la Torah orale. Et c'est ça la Torah. Et c'est cette Torah-là que les Chachamim, que les Bnei Israël n'ont pas voulu accepter. Quelque part, ils ne voulaient pas être responsables de tout ça. Ils ne voulaient pas devoir s'occuper de ça. Ils préféraient un monde qui était déterministe, mais dont le déterminisme vient de l'extérieur. OK, il est un peu difficile, etc. Mais on peut acheter les dieux si on leur fait des petits cadeaux, ils vont être bienveillants, etc. C'est un monde beaucoup plus facile. Alors, bien sûr, il y avait des décrets divins, alors ça fait Antigone, ça fait ce que vous voulez, tout ça. Bien sûr, ça existe.
Et cette compréhension, elle a pris 1000 ans jusqu'à Megillat Esther.
Oui, c'est-à-dire cette. Oui, c'est-à-dire que. C'est allé jusqu'à ce que les Bnei Israël soient en danger de mort absolue. Megillat Esther, c'est le récit de la première solution finale. Un cinglé qui a décidé de tuer tous les juifs, pas de tuer tous les juifs, mais tous les juifs le même jour. Même Adolphe, il n'a pas pensé une chose pareille. Normalement, lui, il faisait ça en un seul jour. Ça, c'était son projet. Quand les Bnéis ont atteint ce degré presque zéro de l'existence, Hachem a fait en sorte qu'il y ait une Esther, Mordechai, qui ont compris que le clan d'Israël, pour se ressaisir, il avait besoin d'unité. Bon, la grande idée d'Esther, c'est tout le monde va jeûner en même temps. Et même moi aussi. Et à contre-courant, une femme qui veut séduire un homme, a priori, elle ne s'inflige pas à 3 jours de jeûne. Si c'est pour faire des kilos, mais elle ne s'inflige pas à 3 jours de jeûne absolu avant d'aller voir le bonhomme en question. Donc, tendance à se maintenir en bonne forme, super forme. Elle a compris qu'il y avait besoin d'une unité, y compris la reine. Et c'est comme ça que Hachem a sauvé le clan d'Israël, parce que bon, ça explique bien que quand elle est allée chez Achashverosh, il n'était pas tellement sûr de ce qu'il allait la toucher, vous vous souvenez, qu'on survive chez ce cinglé, quand on entrait, il fallait qu'il touche avec son sceptre. Chazal disent, il n'était pas sûr. La Gemara, elle dit que la monarque est venue, qui a allongé son sceptre jusqu'à ce qu'il touche Esther. Hachem a bousculé l'histoire. Il ne savait pas. Bon. Voilà. Et du coup, le clan Israël a survécu. Et à ce moment-là, il a compris que la Torah était fondamentale. Parce que c'est Mordechai et Esther qui lui ont, en quelque sorte, eux qui étaient fidèles à la Torah. Mordechai qui n'a pas voulu aller manger un festin où même si, certains disent que ce n'était pas cachère, mais même si c'était cachère, il fallait manger à la table d'un bonhomme qui allait sortir les kélims du Beth Amikdash et manger dans ces kélims-là parce qu'il se prenait pour Dieu. Et Mordechai, il a dit, moi je ne mange pas à cet endroit-là. Contraire à tous les autres rabbanim de l'époque, ils sont tous allés manger. Au point que, bon, non, c'est peut-être pour autre chose. La dernière fois, on est plus facile. Au point que, il ne faut pas le dire. Donc ça, c'est juste pour qu'on ait une idée un peu de la situation. Alors, Moshe Rabbeinu, Hachem le lui a ordonné, il y va. Va, il leur dit tout ce qu'Hachem lui a dit de dire. Résultat des courses. Résultat des courses, ils n'ont pas écouté. Lo shamu el Moshe. Ils n'ont pas entendu. Rashi dit, Lo shamu el Moshe, lo kiblu tanchumim. Pas qu'ils n'ont pas cru. Lo kiblu tanchumim. Ils n'ont pas accepté les consolations. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Ikotzer ruach ou me'avoda kasha. Pas accepté parce que ikotzer ruach, ils avaient le souffle trop court. Bon, c'était insupportable. Ils n'étaient pas capables d'entendre. Et le travail qu'on leur était imposé, qu'il leur était imposé, était tellement lourd, tellement difficile, mais mon cher Rabbeinu, d'abord mon cher Lifnei Hashem, les morts, et donc mon cher Rabbeinu, il revient à bredouille en fait. Et il dit, Hen, venez Israël, lo shamu elai. Quand il dit, ok, je te montre que je ne suis pas capable de faire passer le message. Et donc, il prend ça pour justifier sa position. Ve'er, Ishmaël y paro. Si les venez Israël pour lesquels ce que je leur dis, va dans le bon sens. Ils ne peuvent pas m'écouter. Ils peuvent pas m'écouter, c'est parce que je ne sais pas le leur dire. Alors comment tu veux que Paro m'écoute? Vani aral sfataim. Le pasouk, il a l'air de dire deux choses. Il y a le kotser ruach et avodah kasha. Est-ce que c'est le cumul de ces deux, mais que chacun d'entre eux, à lui tout seul, n'était pas suffisant? Il y avait deux raisons. On pourrait dire, mais quand c'est ruach, le ruach, c'est l'esprit. C'est le souffle, mais c'est l'esprit. C'est-à-dire que leur esprit était trop court, quoi. Ils n'arrivaient pas à le penser. Et puis par ailleurs, physiquement, ils étaient incapables de le supporter. Le Sforno, il lit un peu différemment et il dit que les Bnei Israël n'ont pas vraiment, ils le traduisent comme ça, ils n'ont pas accordé au message de Moshe toute l'attention requise pour affermir leur Emouna en Hachem. Ils n'ont pas écouté comme Abraham aurait écouté. Et il dit, par conséquent, c'est pour ça que cette génération n'entrera pas en Eretz Israël. On a l'impression que, bon, premièrement, vous savez bien toutes que la raison pour laquelle ils n'entrent pas, c'est qu'ils meurent tous dans le désert. Tous les hommes meurent dans le désert. Il meurt à cause du veau d'or. Le veau d'or qui a été pardonné, mais sous forme de sursis, dit le Gaon de Vilna. Et le sursis est tombé à cause des Meraglim, au moment de l'épisode des explorateurs. Mais le Sforno dit, c'était déjà raté ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a l'impression que lui, il dit, c'est le Kotser Ruach qui a fait que ça n'a pas marché. Donc, si je comprends bien, ce que Sforno veut dire, c'est qu'ils étaient incapables de le penser. Il faut oser penser. Si vous voulez penser, il y a des moments, des situations dans lesquelles tu ne peux pas penser à certaines choses. Certaines personnes ont raconté que dans les camps, il y avait des choses où tu ne pouvais même pas penser. Qu'est-ce que Paro a fait quand Moshe Rabbeinu est venu et qu'il a essayé d'obtenir, il lui a dit « Let my people go » et Paro a dit « Qui c'est qui parle là? Je ne connais pas, j'ai regardé dans l'ouze, vous, des dieux, il n'y en a pas, je n'ai pas vu ton dieu là. » Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais vous avez du temps pour penser. Vous pensez à le servir, Dieu, lui faire des corbanotes, etc. On va vous enlever le temps pour penser. Vous allez devoir tellement travailler que vous n'aurez pas la force de réfléchir, de penser. Le travail était tellement difficile que du coup, ils étaient incapables de le penser. Seulement, Sforno, sa lecture est un peu sévère, parce que si la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à penser, c'est à cause de la Avodah Kasha, c'est parce que le travail est tellement épuisant que quand tu rentres chez toi, tout ce que tu peux faire, c'est évident. Si tu as quelque chose à manger, c'est essayer de manger quelque chose et ensuite aller dormir. Qui est malheureusement la condition de certaines gens qui travaillent extrêmement dur et qui ne peuvent pas faire autre chose que quand ils rentrent chez eux, il faut dormir. Ils ne peuvent pas faire autre chose, ils ne peuvent pas penser à autre chose. Alors si c'est ça, le Sforno est un peu trop sévère. Pourquoi est-ce qu'ils allaient perdre le droit d'entrer en Eretz Israël s'ils ne peuvent pas penser parce que les conditions pour pouvoir penser ne sont pas réunies? Donc il faut dire que le Kotser Ruach, il n'est pas seulement dû à la Avodah Kasha. Penser, qu'est-ce qu'il fallait penser? Penser qu'il y avait un Dieu auquel on croit, ce Dieu, mais arriver à penser qu'il va nous sortir de là. Ils sont enfoncés dans le... Ça fait des générations qui sont des générations de gens qui sont esclaves. Donc, ils n'arrivent pas à penser la liberté. On dit sur le carpas qu'on mange le soir du céder, c'est présenté comme une espèce d'apéritif, c'est pour ouvrir l'appétit. Et on dit pourquoi il faut ouvrir l'appétit. Il faut ouvrir l'appétit pour la liberté. Pourquoi ? Parce que penser la liberté, c'est un effort qui est presque inconcevable à un certain degré d'esclavage. Si vous voulez, il y avait des esclaves avant Lincoln, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer ? Une bouteille de bière de plus, c'est tout. Il a fallu que des gens viennent de l'extérieur pour leur dire que, vous savez, vous pourriez vous libérer. Quand Moshe vient, il leur raconte une histoire, là. Pourquoi il le croirait ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on dit qu'ils l'ont cru, mais ils ne pouvaient pas l'écouter complètement. D'accord ? On voit plus loin que Eminou, Moshe. Ils ont été ma'amine, en fait. C'est même, non, c'est pas plus loin, c'est plus haut. On a vu qu'ils sont ma'aminim. On reproche même à Moshe Rabbeinu d'avoir pensé qu'il ne lui, il serait pas ma'amine, il ne le croirait pas. Ils le croient. Ils croient, ils sont ma'amine, Bachem. Mais ils pensent. C'est impensable. Mais penser la liberté, c'est impensable à ce moment-là. Kosser ruach. Et si ce n'est pas dû à la dureté, mais c'est dû au climat d'idolâtrie, etc., dans lequel ils sont, alors ça, c'est grave. Et ça, on peut comprendre que ça ait comme conséquence qui n'entre pas, cette génération n'entre pas en Eretz Israël. Je ne sais pas sur quoi le fourneau se base pour dire ce qu'il dit, parce que c'est un ridouche. Enfin, à mon avis, c'est un ridouche. Et Moshe, lui, il dit que c'est ma faute. Je suis Aral Sfataim. La Orla, Aral Sfataim, c'est qu'il y a une Orla. Comme on dit, Orla Talev, ou bien la Orla du corps, qu'il faut faire la Mila. On dit Orla des oreilles. C'est quoi? C'est quelque chose qui cache. C'est un écran. Il dit, moi, quand je parle, il y a un écran, c'est-à-dire, ça sort pas comme ça devrait sortir. Mes lèvres, en quelque sorte, elles sont pas capables de formuler les choses de telle sorte qu'elles soient audibles par des gens qui ont des difficultés à entendre. C'est pour ça. Et donc, c'est inaudible. On explique aussi que la raison pour laquelle, quand Moshe et Aaron vont parler à Paro, pourquoi est-ce que c'est pas Moshe qui parle ? Mais Moshe, il parle à Aaron et Aaron parle à Paro. Alors, on dit que la parole de Moshe Rabbeinu n'était pas audible pour Paro. C'est comme si on disait la fréquence sur laquelle émet, sur laquelle... Le, la, La parole de Moshe a une fréquence telle qu'il n'y a pas de récepteur chez Paro pour cette fréquence-là. C'est-à-dire que de même que nous, on n'entend pas certains sons que les chiens entendent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de récepteur pour cette fréquence, pour ces fréquences-là. Alors quoi? Paro, il n'a pas de récepteur pour la fréquence de Moshe Rabbeinu. Alors, ce n'est pas une fréquence qui se mesure en hertz, c'est une fréquence spirituelle. La parole de Moshe est inaudible à un certain niveau. Alors, peut-être que le conservoir, c'est-à-dire quand tu n'es pas capable de penser, de pouvoir entendre ce qu'ils disent. Le chamou et le Moshe, ils n'ont pas entendu Moshe. Celui qui n'ont pas entendu. Ce qu'il leur disait était inaudible pour eux. C'est un inaudible qui n'est pas un inaudible vu parce qu'il n'y a pas le récepteur pour la fréquence en question. Il n'y a pas le récepteur pour pouvoir entendre ce genre de promesses. Il fait des promesses, vous allez sortir. Donc, quelque part, ça s'appelle les tanhumim. Quelque chose qui va les apaiser. Ils ne sont pas apaisables avec ça. Paro, par sa touma, ils ne pouvaient pas entendre la parole de Moshe. Et eux, d'après le Sforno, ils ne pouvaient pas l'entendre non plus. Peut-être parce qu'il y avait trop d'avodazara dans leur tête. Du coup, le souffle est trop court. Il n'y a pas de ruach. Le ruach n'entend pas. Il n'entend pas, ce roi-là n'entend pas. Comme si la bande passante de leur roi n'était pas assez grande pour entendre Moshe. Alors, maintenant, on passe. C'est Hachem qui parle à Moshe, à Aaron cette fois-ci. Et il leur donne un ordre. « Vayetzavem » El Bnei Israël ve El Paro Melech Mitzrayim. Et il leur ordonne. Qu'est-ce qu'il leur ordonne? Il leur donne des tzivouyim, des ordres concernant les Bnei Israël et concernant Paro Melech Mitzrayim. C'est quoi l'ordre? C'est les deux doivent entendre l'ordre de un ordre de dire aux Bnei Israël qu'ils vont sortir d'Égypte et de dire à Paro qu'ils vont sortir d'Égypte. Alors, on leur dit le Hotsi. Eux, c'est comme Moshe et Aaron reçoivent l'ordre cet ordre doit, ils doivent le répercuter à Bnei Israël et à Paro. Nous avons reçu l'ordre de sortir les Bnei Israël d'Eretz Mitzrayim. C'est un ordre. C'est curieux. On donne un ordre à quelqu'un qui a un pouvoir, non? Moshe et Aaron ont un pouvoir de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Vayetzavem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on entend ça? Donc, pourquoi est-ce que Hachem parle maintenant tout à coup El Moshe Vel à Aaron et à Aaron aussi? Alors, Hachem dit, le fils est à Moshe Aral Sfataim. Puisque Moshe dit, moi, je suis Aral Sfataim, je ne peux pas parler. Alors, Tziref lo Akadosh Baruch Hu et Aaron. Hachem lui adjoint à Aaron, liotlo le pe ou le melitz. Donc il va être celui qui parle. Aaron est le haut-parleur de Moshe Rabbeinu, le porte-parole de Moshe Rabbeinu. Il va porter la parole, mais à une hauteur telle que Paro va pouvoir l'entendre. Et aussi les Bnei Israël vont pouvoir l'entendre. Bon, j'ai dit, ils ne m'ont pas entendu parce que je ne suis pas audible. Ok. Tu vas dire ce que tu dois dire à Aaron, et c'est Aaron qui va parler. Et ce sera audible pour les Bnei Israël et pour Paro. Vayetzavem el Bnei Israël. Il leur a donné l'ordre qui concerne leur rapport avec les Bnei Israël. Vous devez dire aux Bnei Israël que vous venez les sortir d'Égypte. Vous devez les sortir d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi dit, c'est un midrash. Sivam Alehem, Hashem a ordonné à Moshe et à Aaron, concernant les Bnei Israël, les Anigam, de les diriger, Benachat, Velisbol, Otam. Ils ont l'ordre de diriger les Bnei Israël, Benachat. Benachat, ça veut dire calmement, doucement. Velisbol otam, et les supporter, au sens français du terme. Supporter, supporter ces insupportables. Les Bnei Israël ne sont pas vraiment supportables. Vous avez l'ordre de les supporter. Ça, c'est concernant les Bnei Israël. Vel Paro Melech Mitzrayim, pourquoi ici on nous dit. On finit par le savoir que Paro, c'est le roi d'Égypte. Hein? On n'a pas besoin de nous le dire encore une énième fois. Pourquoi la Torah dit Paro, Melech Mitzrayim, on ne sait pas. Rien que dans le Sefer Shemot, on le sait. Mais on avait déjà parlé de lui dans le Sefer Bereshit. Paro, Melech Mitzrayim, ma piton. Pourquoi tu me le dis? Justement, Tzivam, Alav, en ce qui concerne Paro, Moshe et Aaron reçoivent un ordre. Quel est l'ordre? L'achloklo kavod bedivrayem. Il faut lui parler avec kavod. À ce roi perfide et tout ce que vous voulez, il faut parler avec kavod. Ça, c'est le midrash. Donc, le midrash, c'est des ordres à Moshe et à Aaron, vous allez diriger, vous allez ordonner, mais avec un énorme respect. Et bien Israël, il faut les supporter, il faut les diriger doucement, calmement. Paro, il faut lui donner de votre majesté, il faut jouer le jeu, etc. Il faut le traiter comme roi d'Égypte. Vous allez l'obliger à faire ce que vous voulez faire, ce que je veux qu'il fasse, mais avec les formes. Vous n'avez pas le droit de l'écraser par vos paroles. Vous n'avez pas le droit de lui parler en le méprisant. Il est méprisable, c'est vrai. Mais vous allez lui parler en tant que Melech Mitzrayim. Ça, c'est le Midrash. Rashi commence par le Midrash. Mais ensuite, il dit, Upshuto, Sivam Aldvar Israël Val Shlichuto El Paro. Donc, leur a donné une. Vous êtes Shaliach par rapport au Bnei Israël et par rapport à Paro. Ve Dvar Al Sivui Maou, quel est le contenu de l'ordre? Le Farej Me Parsha Shnia. L'achar seder ayachas, plus bas, dans le verset 29, et la mitoch sheizkir Moshe ve'aaron, ifsika inyan ve'ele rashe bet avotam, lelamdeinu ech noldu Moshe ve'aaron, ubemi nityachsu. Alors, c'est curieux, Rashi explique. En vérité, au lieu du verset 14 qui vient ici, il faut aller tourner un peu de page jusqu'au verset 29. c'est la troisième montée. Dans le verset 29, c'est Vaidaber Hashem el Moshe, les morts, Ani Hashem, Daber el Paro, Melech Israël, et Kol Asher, Ani Dover Elecha, dis à Paro tout ce que je t'ai dit de dire, et on reprend. Et Moshe dit, Lifne Hashem el Arat Svataim, donc on recommence ce qu'on vient de dire parce que il y a eu une interruption. Alors Hachem a dit maintenant à Moshe, il lui parle en Vayomer, hein, il lui parle en termes doucement, c'est pas une daber. Hein. Il lui dit, Ré, regarde, Netaticha Elohim le Paro. Je t'ai mis, tu vas être le dieu de Paro, c'est-à-dire c'est toi qui vas lui donner les ordres. Aaron achicha yeh neviacha. Et Aaron, ton frère, il sera ton prophète, c'est-à-dire celui qui parle. Atat edaber et kol asher atzaveka. Toi, tu diras tout ce que je t'ai dit de dire. C'est Aaron qui l'entendra, Paro, il comprendra rien. Mais Aaron achicha yeh daber el Paro. Et quoi? Et il va renvoyer les Bnei Israël de son pays. Tu vas lui dire qu'il doit renvoyer les Bnei Israël de son pays. Velo Ishma Alechem Paro. Mais Paro ne vous écoutera pas. Venatati et Yadim et Mitzraim. Donc, moi, je vais mettre ma main sur l'Égypte, c'est-à-dire, je vais frapper l'Égypte. Veotseti et Sivotai. Et je sortirai mes troupes, mes armées, c'est-à-dire, et Ami Bnei Israël, mon peuple Bnei Israël. De nouveau, ici, on trouve, Hachem dit pas et Ami Israël. Il dit pas, je vais sortir mon peuple Israël. Le peuple s'appelle, au début de Shemot, on a vu, c'est Paro qui les appelle comme ça, Am Bnei Israël. Le nom de ce peuple, c'est Bnei Israël, c'est pas Israël. Et là, ici, de nouveau, la formule, c'est Ami Bnei Israël. C'est pas, si c'était mon peuple Israël, il dirait Ami Israël. Ami, quel est le nom du peuple? Bnei Israël. C'est intéressant de voir. Quand est-ce que définitivement le peuple s'appellera Israël, si jamais il s'appelle comme ça? Donc, moi, je ferai sortir mes armées, mon peuple, Bnei Israël, du pays d'Égypte, et je fatim gdolim avec des jugements, avec tous les miracles qu'on connaît. Veyadum Israël ki ani Hashem. Et les Égyptiens, l'Égypte saura que je suis Hachem. Bintoti et Yadi al Mitzrayim, quand j'étendrai ma main sur l'Égypte. Votseti et Bnei Israël mitocham. Alors, on a repris le cours de. On était en train de dire. Moshe a annoncé que on s'interrompait puisqu'on a mentionné Moshe et Aaron. Alors, c'est comme s'il y avait, vous ouvrez une nouvelle page. Et puisqu'on les a cités, maintenant, on va dire qui ils sont. Il y a une parenthèse sur la biographie de Moshe et d'Aaron. Et les Rachet, donc, on raconte Rachet Bet Avotam, Bnei Rouven, etc. Donc, on raconte les Bnei Israël. Pour pouvoir arriver à raconter la naissance de Moshe. Au verset Kaf, verset 20, Vaikach Amram et Yochevet Dodato, Lo Leisha. Donc, Amram épouse Yochevet, sa tante. Et là, ces épousailles-là dont on parle, c'est les premières, c'est pas le, le Vaikar, Vaïeler Ish mi Bet Levi, Vaikar et Bat Levi. Là-bas, c'était le deuxième mariage. Le mariage après le divorce. Et ici, on parle de Amram qui épouse sa tante. Et là, on nous dit, Vatelet lo et Aaron, Vet Moshe. Là, curieusement, comme toujours, on ne mentionne pas les filles, puisqu'on parle de Yichus, probablement. Enfin, certainement. Et donc, ensuite, et du coup, on dit, voilà, ils sont nés de Amram et Yocheved. Et ensuite, on continue. Donc, on a voulu placer la naissance d'Aaron et Moshe dans le contexte général des naissances chez les Bnei Israël à l'époque. Et puis ensuite, on revient à ce qu'on avait dit, quitte à reproduire une phrase qui a déjà été dite. Vraiment comme quelqu'un qui reprend le texte. Nous disions donc, voilà,